On retrouve Bruno Canard pour l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on a appelé à un moment la Bible de la bande dessinée. C'est le BDM. Donc, il est publié tous les 2 ans. Et les trésors de la bande dessinée, c'est son titre générique, donc appelé BDM du nom des 3 créateurs, Michel Béra pour le B, Michel Denis pour le D et Philippe Mello pour le M. C'est un Argus reconnu et surtout un catalogue encyclopédique. Sa 24e édition vient de paraître, elle compte 1840 pages, je vous laisse imaginer le poids, et recense environ 175 000 albums. Entretien avec Philippe Mello qui poursuit la direction du BDM et qui en est un des co-auteurs, et ça sera vers 14h10. A tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Donc Fabien est en régie. La programmation musicale a été faite par Philippe Mello. Nous écouterons successivement Lorena McKennitt, Jacques Brel et puis l'aînée Marlene, je crois. Et je voudrais encadrer le BDM par 2 romans graphiques d'ampleur. Ils font tous les 2 240 pages et il y a des héroïnes à l'intérieur de chacun d'eux, puisque cette année, le BDM fait une place majeure aux héroïnes et artistes qui sont mis à l'honneur tout au long de ces 1840 pages. Mémoire de Gris est le premier roman graphique que je voudrais évoquer. C'est un récit complet de Sylvain Ferret qui avait notamment écrit, scénarisé, dessiné, mis en couleur et lettré une série en 3 volumes qui s'appelait Talion. Alors, Mémoire de Gris, gris, ce n'est pas la couleur, c'est un territoire. Le récit. Dans la région de Gris, justement, saignée à blanc par les taxes qui financent une guerre lointaine, le chevalier Pierre de Brume est ramené à la vie par Marion, la guérisseuse, qu'il a abandonnée il y a longtemps de ça. Tandis que la forêt s'agite et que le peuple gronde, les anciens amants sont rattrapés par le passé et la violence qu'ils ont fui toute leur vie. C'est un album de plutôt grand format, c'est un 24-32, c'est un conte fantastique, avec une présence constante en arrière-plan de 3 fées. Et puis, elles vont apporter soutien et pouvoir. Mais par contre, en échange de ces soutiens, elles vont exiger des compensations à la manière de Faust, plutôt lourdes. Elles vont tirer les fils de la vie de proche. Le récit est découpé en 26 chapitres. C'est une fable politique sur le pouvoir et le peuple, sur la soif de puissance opposée au devoir de protection qui se délite tout au long de ce récit. Marion est une guérisseuse, c'est une sorcière dans une ambiance médiévale où justement les sorcières sont pourchassées et menées au bûcher. Elle va apporter son soutien aux villageois pour soulager les peines, soutenir leur colère et s'opposer à la violence de Pierre de Brume qui est un digne successeur de son père, même si il en a été aussi victime, qui était un seigneur tyrannique. il y a, et c'est la force de Sylvain Ferret, un plaisir au dessin qui est absolument manifeste, qui était à l'œuvre dans Talion, un monde futuriste avec de très nombreux bâtiments qui étaient mis en perspective pour faire ressortir les architectures. Là, cet amour pour l'architecture de Sylvain Ferret est plus mesuré. Il y a une présence de tout ce qui fait l'époque médiévale qui trouve facilement sa place, mais pas forcément avec ces mises en perspective assez spectaculaires. Il y a par contre une utilisation de la plongée complète, une vue de dessus qui donne aussi ces perspectives inhabituelles. C'est un récit où on va avoir des éléments passés importants. Il y a des flashbacks qui vont d'ailleurs créer une certaine chronologie puisque on va partir des plus anciens. Et puis au fur et à mesure que le récit avance, eh bien on va se rapprocher de la période présente. Ces flashbacks sont avec un découpage particulier. Il y a un espace entre les cases qui est un peu plus large que ceux qui se trouvent dans les pages concernant le présent. Il y a une mise en couleur qui est différente, qui est sur la base d'une couleur, un gris, avec ses dégradés, alors que la période présente, eh bien, montre une couleur, une mise en couleur plus classique, mais où la lumière n'est jamais ouvertement appuyée. Et puis il y a aussi une troisième mise en image qui est de couleur rouge et qui marque les violences tout au long de ce récit. C'est une écriture qui est maîtrisée, le récit coule. Il y a le personnage de cette guérisseuse, Marion, qui veut combattre la violence et la puissance qu'il y a à l'œuvre dans cette période du Moyen-Âge. Il y a pourtant un point qui mérite une réflexion qui sur le découpage et la mise en scène. Sylvain Ferret a recours, comme il l'avait fait déjà par le passé dans sa série Talion, il a recours à un découpage où il y a un fractionnement de l'image qui est assez appuyé, assez poussé, allant régulièrement vers le 5 bandes d'image sur une page, ce qui est assez qui réduit vraiment l'espace de la case. Alors c'est un auteur qui a la faculté d'utiliser le lointain pour pouvoir, dans ces petites cases, avoir suffisamment d'ampleur. Il y a des cadrages qui vont plus privilégier la proximité. Mais dans ce fractionnement d'image, on perd cette proximité, cette facilité, cette fluidité dans la lecture que d'autres auteurs s'appuient, mettent en œuvre avec la régularité. Par cette réserve, il y a vraiment le personnage de Marion qui a une très grande ampleur, qui fait partie de ces femmes mises en avant, à la fois dans le rôle de résistante au pouvoir comme les sorcières, mais aussi par cette fidélité et cette exigence vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de la communauté, du bien commun. C'est un récit qui nous attrape et qui trouve pleinement, par ses formes d'écriture, beaucoup de qualité. Mémoire de gris, donc récit complet de Sylvain Ferret, qui est donc scénariste, dessinateur, coloriste et lettreur. C'est publié par les éditions Delcourt. Les 240 pages de ce récit sont au prix de 30 euros. Thank you.
bonny and there lives my love lies on him and cannot remove, it cannot remove for all that I have done, and I never will forget my
Philippe Mello est un des trois créateurs du catalogue encyclopédique et Argus de la bande dessinée, créé en 1979. C'est le M du BDM. Le B, c'est Michel Béra, le D, Michel Denis, et le M, ben, c'est Philippe Mello. Donc, Philippe Mello est un ancien rédacteur en chef de Charlie Mensuel et de Pilote. Il a écrit quelques scénarios. Il est auteur d'une douzaine d'ouvrages en tant qu'historien, notamment Paris sans dessus-dessous et Paris disparu, à partir d'innombrables photos et dessins. Il a écrit également Les vies secrètes du vieux Paris, où il ouvre le livre d'or des petites gens, des mauvais garçons et des filles de joie. Avant de retrouver Philippe Mello, découvrons ses deux co-auteurs, Michel Béra et Michel Denis, à l'époque des premiers tomes du BDM. Allons-y. Le premier trésor de la bande dessinée est paru en janvier 1981 et faisait suite au guide de la bande dessinée publié par Horus. Extrait de deux entretiens que j'ai réalisés avec Michel Béra et Michel Denis, en 1982 et 1986. Retour sur les débuts de ce catalogue encyclopédique, rapidement appelé BDM. 1982, Michel Denis.
À l'époque du Gifouif, c'était surtout le troc, le marché n'existait pas, il y avait quelques collectionneurs qui se réunissaient dans des salles de café, bon, et il a fallu attendre 1966 pour voir apparaître la première boutique de bandes dessinées anciennes qui commençait à côté des bandes dessinées, c'est la librairie de Jean Boulet, qui se trouvait rue du Château à Paris. Puis après, petit à petit, bon, il y a plusieurs boutiques qui sont montées, le marché a commencé à se faire. Au début, avec ce qu'on appelle les illustrés de l'âge d'or, c'est-à-dire Oura, Robinson, Joël de Mickey, Junior, qui étaient recherchés par des gens qui ont maintenant une cinquantaine d'années, mais qui à l'époque avaient à peu près 35 ans. Des gens comme Lacassin, bon, Molly Terny, enfin d'autres... La Rennais, etc. Le marché a continué à se développer et puis est apparu bon, vers 1973 ce qu'on appelle la génération Lombard-Dupuis, c'est-à-dire tous les gens qui collectionnent les dessinateurs franco-belges qui ont commencé à apparaître vers 1950 en France. Et alors là, c'était vraiment un phénomène fou parce que, bon, en quelques années, bon, des choses qui valaient vraiment trois fois rien se sont mis à côté à une vitesse prodigieuse, tous les deux ou trois mois les codes changeaient, enfin, disons de 73 à 1978-79, c'était vraiment le grand boom sur le Lombard-Dupuis, surtout Spirou et Tintin, dont les reliures augmentaient à une vitesse prodigieuse. Et puis maintenant on est arrivé à une nouvelle génération, c'est-à-dire la génération des bandes dessinées adultes, l'époque des métals hurlants, bon, etc.
Michel Béra.
Le gros problème des collectionneurs était la lacune totale en matière de documentation. C'est-à-dire qu'ils avaient leurs souvenirs d'enfance, ils connaissaient ce qu'ils avaient lu, mais ils ignoraient totalement la qualité des productions, la quantité des productions. Il n'y avait aucun recensement qui a été fait. Alors, une part importante dans l'historique a été effectuée par un certain nombre de libraires aux différentes périodes qui ont commencé à recenser et à noter sur leurs fiches de libraires pour les collectionneurs. Attention, tel journal, il s'est arrêté à son numéro 296, je parle du journal de Mickey. On a commencé à faire une recherche bibliographique. Et c'est qu'à partir de 73-74 que, devant l'augmentation du nombre des collectionneurs, un certain nombre de libraires ont eu le courage de sortir des petites plaquettes partielles, très limitées, donnant à un grand public, à un plus large public, leur connaissance. Quant aux cotes, comme disait Michel Denis, elles sont extrêmement variables. C'est-à-dire qu'il n'était pas possible de donner une information autrement que par le biais d'un catalogue qui n'était valable que 1 ou 2 mois, catalogue de vente de libraire, une information au collectionneur. Alors, au fur et à mesure que ça s'est répandu, vers 1977, moi j'étais jeune collectionneur et on a commencé à se dire il faudrait un organe vraiment ciblé, le collectionneur de bande dessinée, qu'est-ce qu'on peut lui apporter. On a fait ce petit journal qui était lui aussi René Hotté au départ, qui s'était offert par la suite parce qu'on a eu l'aide de nombreux libraires. Et 2 ans plus tard, on s'est lancé dans ce travail de retrouver, de compiler et enfin de présenter sous une forme d'un bouquin toute l'information qu'on connaissait. Ça a été les premiers catalogues de cotes, parce qu'on voulait donner les cotes du marché telles qu'on les sentait, mais aussi de recensement et d'études encyclopédiques, d'expliquer aux gens que Mandrake c'est un magicien, que Bico c'est un petit garçon qui a une sœur qui s'appelle Suzy, et que dans le Dupuy-Lombard, Franquin il dessine Gaston, il dessine Spirou aussi, mais il a fait participer à un fanzine, telle couverture. Parce que les collectionneurs ont une vue d'ensemble, on a essayé de leur rassembler tout ça sous la forme d'un bouquin. Et ça a été les premiers catalogues. Pour faire nos cotes, nous on les impose pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il existe une association qui nous regroupe, mais qui regroupe aussi une trentaine de personnes maintenant, dans laquelle on essaye de faire les cotes sur chaque domaine, avec le spécialiste du domaine. Moi, je suis parfaitement incompétent pour faire les cotes de récits complets d'avant-guerre. Par contre, je crois que je m'y connais assez bien pour faire les cotes des Tintins noirs et blancs ou faire les cotes du Pilombard. Mais nous avons une trentaine de correspondants qui nous écrivent et on se réunit en plusieurs séances où on travaille, où on s'engueule comme du poisson pourri d'ailleurs parce qu'on n'est jamais d'accord, et pour arriver à une cote moyenne. Et cette cote moyenne est maintenant, elle est prise comme base d'échange. C'est-à-dire que les gens savent, bon, ben, cet album vaut grossièrement entre 10 et 20 francs, et tel autre vaut entre 100 et 200 francs, et tel autre autour de 1000 francs.
1986, Michel Denis.
80% des antiquaires en France et en Belgique respectent l'Argus. Ouais. Et beaucoup de collectionneurs qui au début rechignent un peu quand ils font des échanges. En général, se base toujours sur l'Argus. La cote, évidemment, est indicative. Faut pas non plus tomber à genoux devant la cote, mais je veux dire, ça donne quand même quelque chose de valable. Bon, à une certaine époque, il y avait des petits escrocs qui échangeaient, je sais pas, un Donald contre un Oura. Un Donald, ça vaut 10 francs, un Oura, ça vaut 100 francs. Bon, maintenant, c'est plus possible grâce à l'Argus.
Sur quels critères vous définissez, par exemple, tel Jerry Spring à 300 ou 350 francs? En fonction de quoi le prix va être fixé?
Essentiellement, on essaye de coller à l'offre et la demande. Essentiellement, parce que bon, c'est une loi économique qui plaît ou qui plaît pas, mais enfin bon, c'est une loi économique qui s'applique dans tous les domaines. Hein. Et en fait, si on respecte pas cette loi, tôt ou tard, ça nous retomberait dessus. Si par exemple, je sais pas, on s'amusait à mettre 100 francs, quelque chose qui est très très courant, et qu'on peut rencontrer à 25 francs sur un marché ou chez un, je sais pas, disons, chez un brocanteur. Ça se saurait très vite, et en fait, on essaye vraiment de respecter, on fait des réunions entre antiquaires avant l'apparition du BDM, on essaye de coller au plus à l'offre et à la demande. Et d'ailleurs, quand un stock est retrouvé, des choses qui arrivent, par exemple, et immédiatement, on le signale dans le collectionneur de bande dessinée et on redonne la nouvelle cote. La cote qui peut d'ailleurs tomber à zéro si, par exemple, c'est retrouvé en milliers d'exemplaires. Ça s'est déjà vu, quoi. À chaque parution du BDM, il y a de nouveaux collectionneurs qui se lancent. Hein. Parce que bon, avec l'apparition du BDM, il y a une certaine confiance qui est faite chez les gens. Ils savent bien qu'on va pas leur vendre n'importe quoi à n'importe quel prix. Et il y a de nouveaux collectionneurs qui sont à chaque fois. Des gens qui ont entre 30 et 40 ans, qui commencent à avoir un certain niveau de vie et qui commencent à faire les premières éditions de Blueberry, par exemple. Et tout le monde cherche évidemment en ce moment des Black et Mortimer en dos lombard. Et ça, il y a des grandes chances que ça va continuer à monter. Parce que pourtant, il y a certaines comme SOS Météor qui sont très chères, mais... On les trouve pas, malgré des cotes assez hautes, on les trouve toujours pas. Il y a de plus en plus de demandes sur ce genre de choses.
Est-ce que vous allez continuer donc à explorer d'autres domaines, monde de la bande dessinée, du monde de l'image?
Probablement que dans les années qui vont venir, il y aura des collectionneurs de ça et il faudra recenser tout ce genre de choses. C'est sûr, mais alors là c'est un travail vraiment de Romain. Hein. Parce que il y a même des gens qui commencent à s'intéresser aux éléments de vitrine, par exemple, de promotion de bande dessinée, de carton, il y a les affiches aussi. Il y a des affiches de films qui ont été faites par des dessinateurs de bande dessinée, tout ça. Bon, tout ça, il faut le répertorier. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
On pourrait un jour trouver un BDM avec tous ces domaines côté...
90, ça sera peut-être un énorme botal, ça sera peut-être en deux volumes, parce qu'il y aura tellement de connaissances dedans, que, de renseignements, que c'est possible, hein, c'est pas absurde, ça continue comme ça. Alors ce qu'on fera peut-être, on fera peut-être un chapitre une année, puis quand on en fera un autre. Par exemple, dans le dernier, on a pas repris les fanzines, par manque de place, parce que bon, il n'y a pas tellement de choses à rajouter, mais on le fera dans le prochain, mais on enlèvera peut-être à ce moment-là les récits complets, ou etc. Quoi. Un peu comme fait le Nedin d'ailleurs. Parce qu'autrement, ou alors on va finir effectivement sous forme de potin dans les années 90.
Bonjour Philippe Mello.
Bonjour.
Alors, il n'y a toujours pas de volume, mais il y en a quand même 1840 pages pour cette 24e édition.
Ah oui. Non, la notion de volume a toujours été une idée, mais à laquelle on a toujours vite renoncé et préféré des papiers plus minces, mais en même temps de très belles tenues pour continuer à engranger toutes les informations nécessaires aux amateurs et collectionneurs.
Est-ce que vous aviez imaginé, dans les années 80, cette évolution du BDM?
Non, c'était tout à fait inimaginable. D'ailleurs, bon, on ignorait, bien entendu, comment allait se transformer le marché de la collection. Tout bouge, hein, quoi dire, ça n'a cessé de bouger depuis 45 ans maintenant. Parce que bon, en vérité, le premier BDM en tant que tel est paru en 79. Donc on en est maintenant à la 24e édition, je crois.
C'est ça.
D'une édition tous les deux ans, sauf une petite exception il y a 5 ans.
Alors, cette 24e édition est marquée quand même par un certain nombre de changements, dont celui d'une cote en très bon état, et non plus sur des cotes en bon état.
Alors, ça avait déjà été effectué dans le précédent BDM, mais le marché, bon, à des fois, à des périodes, je dirais, un peu de stabilité, et on assiste, et ça n'est pas d'ailleurs la seule référence à la bande dessinée, c'est dans tous les domaines de la collection comme ça, tout le monde veut du très bon état, presque au minimum, et le plus souvent même de l'état neuf. Alors, bien entendu, la surcote de l'état neuf, qu'on dirait toujours très important, est des fois complètement pyramidale. Il y a des tintins à l'état neuf. Bon, on suggère que ça peut faire jusqu'à 3 fois la cote citée dans BDM, mais il arrive que certaines personnes, quand ils les trouvent, mais quand on dit neuf, c'est vraiment neuf, les payent 10 fois, 20 fois la cote du BDM. Mais il y a une espèce de fascination pour l'état parfait, qui s'est développé depuis une vingtaine d'années et qui maintenant atteint un peu son apogée. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas s'offrir des albums comme ça, et aussi beaucoup d'ailleurs aiment les albums, je dirais, qui ont un peu vécu, qui ont un pédigré, qui offrent cette impression d'avoir été possédé par un enfant, donc avec ses petits défauts, pour dire, dans la conservation, quoi. Mais c'est vraiment l'élément le plus marquant depuis 15-20 ans, c'est vraiment cette passion, ce désir absolu pour l'état neuf. Là, il y a d'autres domaines qui me sont familiers, comme les Jules Verne, par exemple, tout ce qui est Jules Verne et Hetzel de l'époque. Et aujourd'hui, la notion d'état neuf, est un critère fondamental, je dirais, pour le marché du genre.
Alors, il y a une autre innovation importante pour cette 24e édition, c'est la présentation des deuxièmes plats pour les collections pilotes et les collections du Lombard. Alors, qu'est-ce que ça représente de faire de telles compilations?
C'est un travail bien sûr considérable, mais indépendant de ça, c'est une exploration permanente. C'est-à-dire que bon, c'est une chose à laquelle on réfléchissait depuis déjà des années. Il y a un certain nombre d'amateurs qui ont travaillé durant ces années, et le fait de pouvoir proposer quelque chose d'aussi facile à consulter, lisible, comme ce fut le cas pour les Tintins, il est impossible d'identifier bien une édition de Tintin sans avoir la référence BDM. D'ailleurs, toutes les ventes publiques qui proposent des Tintins disent toujours c'est un deuxième plat B2, B7, A3, enfin n'importe quoi, ces références qu'on trouve dans BDM, et les collectionneurs, s'ils n'ont pas cette information-là, se refuseraient à, à faire le choix, un choix d'achat ou quoi que ce soit, quoi. C'est devenu vraiment la clé de compréhension pour Tintin. Alors, cette clé de compréhension n'est pas aussi invraisemblablement complexe que pour Tintin lorsqu'on parle de Lombard ou de la collection Pilote, mais ça rend l'identification de l'édition beaucoup plus aisée, et ce sera, je l'espère, je le suppose, un grand, grand, grand plaisir pour les collectionneurs.
Qu'est-ce qui a retardé la présentation des dos de la collection Pilote?
Parce que c'était assez complexe. Ça existait, je dirais, d'une certaine manière dans les précédents BDM. On disait toujours, je sais pas, moi, Bob et Bobette, le fantôme espagnol, vous avez, comme il y a 3, 4, 5 éditions, on disait, dernier titre, tel truc, on donnait des informations qui permettaient quand même d'identifier telle ou telle édition. Mais en même temps, il y a toujours les éditions françaises, les éditions belges, les éditions réservées pour le Congo, enfin qui étaient spécifiquement vendues au Congo. Donc tout ça restait quand même relativement complexe, et le fait de pouvoir visualiser ces deuxièmes plats du Lombard, pour ne citer que, c'est quelque chose qui va permettre aux amateurs, je dirais, de s'aiguiller plus aisément vers telle ou telle édition qui les intéresse.
Philippe Mello, est-ce qu'il y a encore des découvertes qui sont faites, par exemple, sur les Tintins ou sur les Astérix?
Sans arrêt.
Mais qu'est-ce qu'on peut trouver encore?
La dernière version de Tintin qui est dans ce BDM-là, d'ailleurs, je le stipule à je ne sais plus quel endroit, annule la version précédente. Parce que il y a une telle somme de nuances auxquelles on parvient grâce aux différentes explorations. On a des collaborateurs qui font que Tintin, enfin qui s'intéressent très directement au chapitre Tintin, mais c'est un travail continu et une exploration perpétuelle, et qui permet toujours d'affiner vraiment la notion bibliophilique des albums.
Alors, il y a donc les cotes, il y a l'Argus, parce que c'est pas seulement le catalogue encyclopédique, il y a l'Argus. Alors, on a entendu Michel Béra et Michel Denis qui parlaient de leur établissement dans les années 80. Comment ça se passe aujourd'hui?
Évidemment, beaucoup de choses ont changé, hein, par exemple, Michel Denis évoquait l'importance considérable des collections de journaux d'avant-guerre, comme Don Coura, Aventure Junior, Journal de Mickey. Pour toutes ces choses-là, ces générations-là qui avaient donc 50 ans en 1980, aujourd'hui, sont presque tous décédés. Donc, le marché s'est effondré. C'est-à-dire que là, il n'y a pas, parce que les acheteurs n'ont pas été remplacés par des plus jeunes. Donc, il y a des collections qui sortent. Moi-même, qui ai tellement adoré cette presse-là, parce que je chinais des numéros de Oura quand j'avais 10 ans, 12 ans. Donc, il n'y a pas longtemps, il m'a été possible d'acheter la collection d'un type que je connaissais très bien, d'ailleurs, mais qui est une collection faramineuse, et que j'ai payé des prix vraiment complètement bas, parce qu'il n'y a plus de marché. Donc d'ailleurs, pour beaucoup de journaux, on a marqué, désormais, le marché étant totalement incertain, etc., nous ne cotons plus. Donc on reste vraiment, je dirais, très proche de la réalité du marché, quel que soit le domaine ou la génération d'albums à qui elle s'adresse. Donc beaucoup de choses ont changé effectivement depuis les interviews que vous m'avez fait écouter qui m'ont ému d'ailleurs, bien sûr. Et il y a des choses qui ont été créées depuis, par exemple tout ce qu'on appelle les tirages spéciaux, les tirages de tête, tout ça commençait à peine en 1982. Aujourd'hui, c'est un phénomène de collection tout à fait considérable. C'est-à-dire qu'il est rare presque qu'il n'y ait pas, pour la sortie d'un album, un tirage de tête, un tirage spécial, augmenté de croquis, etc. Enfin, donc l'édition un peu reine, qui domine la version entre guillemets ordinaire, telle qu'elle est proposée dans le commerce. Donc ces éditions-là correspondent maintenant à un marché très important, et donc inexistant il y a 40 ans.
Est-ce que il n'y a pas le risque de détourner justement ceux qui se constituent des bibliothèques et qui peuvent être attirés par ces tirages spéciaux, mais à des prix beaucoup plus importants?
Des bibliothèques, vous entendez quoi par bibliothèque?
Des collections, des personnes qui se font leur bibliothèque personnelle.
Ah oui, d'accord.
Oui, pas les bibliothèques municipales, mais est-ce que c'est pas plus compliqué aujourd'hui, compte tenu de la foison ? Eh bien, nous avons perdu Philippe Mello. On va le retrouver dans quelques instants. Donc, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Et nous allons, le temps de retrouver Philippe Mello, on va écouter Jacques Brel et son Jeff.
Non Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de pleurer comme ça devant tout le monde, parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Non Jeff, t'es pas tout seul, mais tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça, bêtement devant tout le monde, parce qu'une trois quarts putain t'a claqué dans les mains. Non Jeff, t'es pas tout seul, mais tu fais honte à voir les gens se peignent nos têtes, foutons le camp de ce trottoir. Viens. Viens, il me reste trois sous, on va aller se les boire chez la mère Françoise. Viens, Jeff, viens, il me reste trois sous, et si c'est pas assez, il me restera l'ardoise. Puis on ira manger des moules et puis des frites et puis des moules, et du vin de Moselle. Et si t'es encore triste, on ira voir les filles chez la madame André, paraît qu'il y en a de nouvelles. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, comme quand on était jeunes, Jeff, comme quand c'était le temps où que j'avais de l'argent. Non Jeff, t'es pas tout seul, m'arrête tes grimaces, soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse. Je sais que t'as le cœur gros, mais faut le soulever, Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul, mais arrête de sangloter, arrête de te répandre, arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau, que t'es bon à te pendre. Non, Jeff, t'es pas tout seul, mais c'est plus un trottoir, ça devient un cinéma où les gens viennent te voir. Viens, viens, Jeff. Viens, il me reste ma guitare, je l'allumerai pour toi et on sera espagnol. Viens, viens, comme quand on était môme, même que j'aimais pas ça, tu imiteras le rossignol. Puis on se trouvera un banc, on parlera de l'Amérique, où c'est qu'on va aller, tu sais, quand on aura du fric, Jeff. Et si t'es encore triste, pour rien que si t'en as l'air, je te raconterai comment tu deviendras Rockefeller. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, comme quand on était beau, Jeff, comme quand c'était le temps d'avant, qu'on soit poivreau. Allez, viens, viens, ouais, ouais, Jeff, ouais, viens, Jeff, viens, viens, viens.
Nous sommes en direct avec Philippe Mello, le M du BDM, catalogue encyclopédique et Argus. Alors, Philippe Mello, il y a au tout début de cette 24e édition, toutes les ajouts qui ont été faits par spécificité. Donc on a les disques, les petits formats, les pixies, et puis par exemple les mangas. Alors quelle position vous avez adoptée pour les mangas?
Alors pour les mangas, c'est vraiment un marché totalement à part, totalement étranger au marché de l'album classique tel que nous le connaissons. Et le problème, c'est que la production était telle qu'à un moment donné, on a dû faire des choix. Et les mangas, on a renoncé donc à mettre les mangas, ce dont personne ne nous en a jamais, on nous a jamais reproché quoi que ce soit à ce propos-là. C'est vraiment deux mondes différents. Les amateurs, les collectionneurs de mangas, quoi, ne sont pas des collectionneurs suivant les traditions albums très française. Et de plus, ils sont réédités en permanence. Enfin bref, donc la notion de marché pour le manga, de marché d'ancien pour le manga n'est pas vraiment développée. Il y a eu des essais, c'est par certains, de faire des catalogues encyclopédies et Argus un peu comme le nôtre pour les mangas, mais ça n'a jamais eu d'avenir. Donc voilà, ça fait partie d'un certain nombre de choix qui furent les nôtres à cause de la place. Et vous voyez, on arrive maintenant à quelques 1800, je sais plus, 40 pages. Il n'a jamais été aussi gros, vraiment, le BDM, avec un papier d'ailleurs tout à fait exceptionnel pour ça. Mais d'ailleurs, juste une parenthèse, je l'ai pesé d'ailleurs, le nouveau BDM, tellement il est lourd, il fait quand même presque 2 kilos, je fais 1,9 kg.
Ah, dans la poche.
Ah, c'est plus vraiment un livre de poche, oui, ça, on risque de pencher à gauche ou à droite suivant la poche qu'on choisit. Oui.
Alors, et dans 10 ans alors, comment ça va se passer, Philippe Mello?
J'avoue que j'en sais rien, et dans 10 ans, le ferai-je encore. Peut-être, parce que moi, mes deux co-auteurs, Michel Denis et Michel Béra est parti, a quitté le BDM vers 1999-2000. Michel Denis, maintenant, est un homme d'un certain âge, lui qui paraissait si jeune comme Béra, d'ailleurs, dans votre interview d'il y a 40 ans, aujourd'hui, est un homme d'un certain âge, et qui n'a plus du tout la possibilité. Alors il suit tout ça, et son nom est précieux. Mais bon, maintenant je refais le bouquin, en solo, avec bien sûr la complicité de nouveaux auteurs, dont en particulier Laurent Turpin et François Sormillan, qui fait de la conception graphique et plein d'autres choses, mais qui a une participation considérable pour l'établissement de tout ça.
Philippe Mello, comment regardez-vous cette évolution de la collection avec notamment l'arrivée des planches originales? On a évoqué tout à l'heure les tirages de tête, alors qui sont compréhensibles puisqu'on trouve l'équivalent en littérature, mais les tirages de luxe où là, c'est sans arrêt. Comment vous situez-vous par rapport à ce type de collection?
C'est un marché concomitant, dirais-je. C'est-à-dire que il faut savoir que la planche originale, pendant longtemps, n'intéressait que très 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 peu de gens. J'ai fait en 1980 avec deux trois autres personnes, on avait monté la première galerie de planches originales de bande dessinée. Et à l'époque, la demande était d'une faiblesse absolue. On avait par exemple une double planche de Tintin du Sceptre de Tokar, un truc quand même exceptionnel qui doit valoir, je sais plus, 200 000 à 300 000 euros aujourd'hui, une double planche complète. À l'époque, on essayait de la vendre 20 000 francs. Et on ne l'a pas vendu. Tout ça pour vous expliquer combien, à l'époque de l'interview, des interviews que vous avez passées, combien c'était un marché totalement balbutiant, combien, presque inexistant. Et il a fallu attendre les années 90, où là, par contre, il a commencé à monter. Et là, maintenant, il explose, enfin, en tout cas, tout du moins pour un certain nombre d'auteurs. Et Hergé étant toujours, le phare, dans ce domaine. Et les prix peuvent effectivement atteindre des sommes absolument considérables. Mais là, la différence avec une planche originale, c'est que c'est vraiment un objet unique. Avec tout ce que ça représente, de puissance, en tant que tel. C'est quelque chose qu'on met dans son salon, et qu'on fait encadrer à grands frais. mais cela dit, je suis d'ailleurs moi-même depuis une dizaine d'années, le seul expert auprès de la Cour d'appel de Paris, entre autres pour les planches originales de bande dessinée. parce que c'est, les valeurs sont telles que maintenant il peut, on peut se retrouver dans des situations de différends ou d'accidents, etc. Et quoi, où tout ça pourrait être une source de problèmes. Donc vous voyez, même la bande dessinée est même entrée dans l'univers de la justice et de la cour d'appel et de Paris, vous voyez, quoi, enfin de Paris ou d'ailleurs, mais tout ça pour dire que c'est vraiment, je dirais, il y a une espèce de notabilité de la bande dessinée qui est parfaitement acquise aujourd'hui.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce support qui est très populaire et reproductible, et populaire parce que reproductible, et ces ventes d'objets uniques que sont les planches originales ?
Non, je crois pas. Non. C'est justement, il y a toujours la tendance pour chacun à vouloir obtenir quelque chose de plus exceptionnel et aussi de par le plaisir que ça procure. Un magnifique, une couverture imprimée, bon, est une chose. Mais quand vous avez le grand dessin en couleur énorme, devant vous dans votre salon, c'est une façon, une sublimation, je dirais, du plaisir qu'on a. Et une reconnaissance aussi artistique, du travail de tous ces artistes.
Est-ce qu'il pourrait y avoir, Philippe Mello, une concurrence possible, un groupe par exemple qui sortirait un contre-argus différent de celui du BDM ?
Il y en a beaucoup qui ont tenté de le faire, mais alors le travail est tellement colossal que c'est quasiment impossible, ce qui fait que il serait pratiquement obligé de nous pomper, c'est-à-dire d'aller prendre l'information là où elle se trouve, parce que c'est déjà arrivé d'ailleurs, et on leur a dit attention, parce que évidemment, il y a quelques pièges dans le BDM, il y a quelques albums qui n'existent pas.
Non.
dont les auteurs évidemment sont par la même inconnus, et du coup, à chaque fois, ils tombaient dans le panneau et reprenaient les pièges. Donc ça s'arrêtait très vite. On n'a jamais eu de problème justement juridique, de procès ou je ne sais quoi. Les gens laissaient tomber. Parce que en plus de ça, je vais vous dire, c'est un travail si considérable que se lancer dans une aventure comme celle-là serait un peu. Je ne sais pas si ce serait d'une rentabilité folle. Bon, il fut un temps où on vendait quand même, quand on avait fait la couverture du BDM de Tintin, c'était en 2002, je crois, on avait vendu 24 000 exemplaires du BDM, vous voyez ce que vous imaginez. Et ça valait déjà 50 euros, quoi. Donc aujourd'hui, on est quand même à... On est tombé à 8000, mais bon, ce qui est dans le cadre du marché, avec les informations qu'on trouve aussi sur Internet, mais les cotes, il y a des gens qui font des cotes sur Internet, mais c'est toujours des cotes mal taillées. Ils avaient d'abord pris les cotes du BDM, puis on leur a dit, écoutez, non, ça va pas. Alors ils disaient, bon, alors ils mettaient un peu au-dessus, un peu en dessous. Enfin, c'était pas sérieux, quoi. Nous, on continue, je dirais, à travailler en consultation, comme on le faisait déjà en 1982, en consultation avec tous les spécialistes tenant compte des différents marchés. Parce qu'il faut bien savoir que vous avez plusieurs marchés. Le marché des librairies, ça n'est pas le marché des ventes publiques, qui n'est pas le marché des ventes sur Internet, etc. Donc, il peut y avoir des variables, je dirais, de cotes qui viennent de l'un à l'autre marché, mais c'est extrêmement complexe. Ce serait beaucoup trop complexe pour quelqu'un de se lancer dans une aventure comme ça. Vous imaginez, on a répertorié quelque chose comme 150 000, je pense, 160 000, on a arrêté de les compter, vous imaginez, albums dans le BDM. C'est tellement colossal, 150 000. Essayez de compter de 1 à 150 000, vous verrez le temps que ça vous prend.
Alors, il y a une question. Bon,
oui.
Les héroïnes et artistes mis à l'honneur cette année, oui. Les artistes mis à l'honneur parce que ce sont toutes des artistes,
oui,
femmes.
Oui.
Bon, il y a des héroïnes écrites. Alors, pourquoi ce choix ? Un choix où vous avez déjà fait des conférences, des expos sur les femmes,
oui,
dans la bande,
oui,
dessinée,
oui,
il y a très longtemps.
Parce que c'est un plaisir et c'est surtout, je dirais, une façon de rendre hommage. Parce qu'il faut imaginer que, justement, encore une fois, je reviens aux années 70, début des années 80, les artistes femmes étaient, mais se comptaient sur les doigts des deux mains, quoi. Il n'y en avait pas. il y en avait si peu pour dire que c'était vraiment un univers de mecs, quoi, la BD. Les collectionneurs étaient tous des mecs, enfin bon, vous voyez, vous imaginez l'univers que ça représente. Et effectivement, quand j'avais 20 et quelques, j'étais à l'époque attaché de presse de la Convention, et j'avais fait une exposition Les femmes dans la BD. Et à l'époque, bon, c'était beaucoup les héroïnes, quoi, avant d'être à l'époque les artistes, mais c'était un univers relativement étroit. Aujourd'hui, l'idée de revenir, quoi, de rendre hommage, quoi, à toutes ces femmes, quoi, c'est un véritable bonheur, parce que on s'aperçoit la place qui aurait pu sans doute être naturellement la leur à une certaine époque, et ça ne se faisait pas. Alors, ne me demandez pas d'expliquer s'il y avait du machisme ou je ne sais quoi. Il y avait aussi peut-être moins d'intérêt de la part des femmes pour la bande dessinée. C'est une chose qu'on ne peut pas exclure. Mais en tout cas, aujourd'hui, quoi, ça n'est plus le cas. Il y a une participation des artistes féminines et aussi la naissance d'une quantité industrielle d'héroïnes qui méritait qu'on rende cet hommage. C'était quelque chose dont l'idée me plaisait beaucoup.
Philippe Mello, par rapport au numérique, il y a par exemple pour les disques, pour la musique, un site comme Discogs qui est entièrement numérique et qui fait un recensement très conséquent. Est-ce qu'il y a une réflexion pour le BDM, pour un passage sur le numérique où vous tenez vraiment à la version papier?
Non, on y réfléchit depuis longtemps. Il y a eu des tentatives qui devant l'ampleur du travail, se sont arrêtées. On en a beaucoup discuté, mais apparemment c'est tellement complexe, que ça n'est pas encore, hélas, d'ailleurs, je le regrette, à l'ordre du jour. Mais surtout que on a mis au point principe, comme j'ai par ailleurs écrit des kilomètres de bouquins, de dictionnaires de la BD, j'en ai fait je ne sais combien, et on se dit que ça ne ferait pas que le BDM, mais ce serait une espèce d'encyclopédie vivante. C'est-à-dire que si vous êtes, vous cherchez un album de Tardy, puis après vous pouvez cliquer sur Tardy et avoir toute la vie, l'histoire de Tardy à côté, toutes ses autres productions, des choses comme ça. On a énormément d'idées, je dirais, pour faire quelque chose à la fois intelligent, entre guillemets, mais je dirais une animation vraiment très très forte et inédite, pardon, pour le faire. Mais l'aventure réclame, des budgets si importants que pour l'instant nous n'avons pas rencontré l'investisseur idoine qui va pouvoir se lancer là-dedans. Mais ça aura sans doute lieu tôt ou tard, mais c'est une grosse aventure. Notre éditeur, les éditions des Arènes, c'est pas du tout son univers, donc il n'y a pas de raison de se lancer dans une aventure qu'il ne maîtriserait pas parfaitement. Mais tôt ou tard, comme aujourd'hui tous les grands patrons de sites qui travaillent dans l'internet ou je ne sais quoi, ils ont tous maintenant un âge, c'était tous des lecteurs de BD à l'origine, peut-être un jour se lanceront-ils dans cette aventure et on les suivra.
Merci beaucoup Philippe Mello. Je rappelle les caractéristiques de cette 24e édition du BDM, trésor de la bande dessinée, catalogue encyclopédique et Argus. Les 1840 pages, donc de plus de 2 kilos, sont au prix de 55 euros. C'est publié par les éditions Les Arènes et le livre a été imprimé en Italie. Et on se quitte en musique. Et merci beaucoup encore d'avoir répondu à mes questions.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt.
Et surtout de m'avoir permis de réécouter la voix jeune de mes anciens co-auteurs.
À bientôt. Merci.
À bientôt. Merci.
saying that it's gotta be this way. I can no longer hide. God knows I've tried. I held on as long as I could. If I could change it, I would. This is the way I am. This is what I do.
Voilà, terminons cette émission avec un autre récit d'ampleur de 240 pages, c'est Idéal. C'est un roman graphique de Baptiste Chaubard pour la partie scénario et au dessin de Thomas Eman. Alors, c'est un livre qui va déjà attirer l'œil par... son ampleur, parce que c'est un papier qui a une certaine consistance, donc le livre est plus épais que la normale. Et il y a cette illustration, ce dessin de couverture qui va marquer par le temps qui s'y découle. On a l'impression d'une illustration avec un temps qui paraît figé et on contemple cette image. En fait, Idéal a constamment cette réflexion sur le temps du récit et le temps de la lecture. Le récit est centré autour de trois personnages, Hélène, Edo et Sachi. Précision sur le récit. Nous sommes au Japon en 2160. Les androïdes ont envahi la vie quotidienne dans le monde entier, partout, sauf sur l'île japonaise très conservatrice de Kino, qui résiste à la modernité et aux nouvelles technologies pour reproduire un Japon de la fin du XXe siècle, gardé sous cloche de verre. Dans cette enclave idéale d'un monde disparu, Hélène et Edo, mari et femme, vivent heureux depuis de nombreuses années. Mais s'il est figé à Kino, le temps commence pour le couple à leur jouer des tours. Pianiste de renom, Hélène voit en effet sa place au sein de l'orchestre philharmonique mis en péril depuis l'arrivée d'une musicienne plus jeune et plus talentueuse qu'elle. De son côté, Edo sent que son désir pour sa femme s'étiole peu à peu. Alors, Hélène décide d'introduire dans leur maison un robot, clone parfait d'elle quand elle était jeune et programmé pour satisfaire les désirs de ses propriétaires. Et donc, dans l'écriture même, il y a cette utilisation de cases muettes, de double pages muettes, de dessins posé, où il n'y a pas cette énergie du trait qui incite à une lecture, à continuer la lecture, mais au contraire, constamment, un tracé délicat, maîtrisé, qui fait qu'on a la sensation que le temps est retenu dans chaque case. Il y a une contemplation qui se met en place tout au long de cette lecture. Il y a la marque du futur qui est exprimé par exemple par cette végétation qui est modifiée par la modernité. On a la sensation qu'il n'y a pas du tout cette légèreté, ce côté aérien de la végétation exprimée par les dessins, les peintures du Japon traditionnel. Il y a un rythme dans l'enchaînement des cases qui fait que l'on passe d'un espace entre deux cases où le temps est très court à un autre où il est beaucoup plus étendu, ne serait-ce que par l'éloignement des deux lieux de chacune des cases. Donc c'est vraiment une écriture du temps long et du temps court, d'une gestion du temps tout à fait adaptée à cette irruption d'une dramaturgie autour de la figure du robot, puisque c'est vraiment ce thème principal. Mais le robot, l'androïde, à l'image d'Hélène, arrive seulement à la page 87. Il y avait un comics américain intitulé Alex plus Ada qui traitait de cette question où un homme se retrouvait confronté pour pallier l'absence d'une compagne avec une femme androïde qui était d'allure féminine tout à fait troublante. Là, les auteurs ont choisi de poursuivre cette confusion et la ressemblance qu'il va y avoir entre Hélène et son double IAH va être appuyée, qui fait qu'à des moments, le lecteur ne sait plus à qui il a affaire, si c'est au robot ou si c'est à Hélène. Et cette façon de donner de l'ampleur au récit pour pouvoir jouer sur cette confusion, mais avec toute la finesse et éviter d'avoir les gros de ficelle du récit, là on est au contraire tout le temps dans la mesure et dans une construction rigoureuse, méticuleuse, mais qui donne vraiment une intensité à la lecture. Et puis cette longueur de récit va donner aux images du dévoilement de qui est l'androïde, le robot, qui vont être absolument saisissantes et d'une grande puissance grâce à cette gestion du temps du récit. Idéal de Baptiste Chauban et Thomas Eman est vraiment un récit inhabituel de par la qualité de son écriture. C'est publié par les éditions Sarbacane. Les 240 pages de ce récit sont au prix de 28 € et le livre a été imprimé en France. Merci Fabien pour cette technique et les sons des voix jeunes des deux auteurs du BDM. Bon, c'est grâce à toi que on a pu les entendre. Et la semaine prochaine, nous serons avec Iwan Lépingle pour son récit Submersion. Très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.